Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Salut à tous, bonsoir, bienvenue dans votre curiosité. Vous allez bien Thomas?
Il est en pleine forme le Thomas Hugues, et comment va la Bonnec?
Elle va super bien la Bonnec, n'hésitez pas à nous appeler. Il y a plein de moyens de communication, vous savez nous sommes en 2017, on a le 3210, c'est le bon vieux téléphone. Il y a RTL.fr, donc là il faut taper son petit clavier sur son ordi. Et puis il y a le Twitter, hashtag la curiosité RTL. Vous posez vos questions, vous allez voir, on va vous dérouler le programme, vous réagissez. Vous nous donnez des idées, des envies. Cette émission, c'est la vôtre et c'est Sarah qui vous attend au bout du fil.
Alors au programme, l'un de ces héros français dont on aime partager le destin dans la curiosité sur RTL, Antoine de Saint-Exupéry, l'aviateur, l'écrivain, le poète, l'aventurier. Et donc pour nous raconter son histoire, un amoureux de Saint-Ex, Patrick Poivre d'Arvor.
Et puis l'histoire... Ah, ça sonne. Du premier coup de fil transatlantique. C'était il y a 90 ans. Et ça donnait quelque chose comme ça. Allô New York?
Ici Londres.
C'est bien fait. Bon, l'accent en moins. On vous racontera les coulisses de cet exploit et aussi l'histoire du téléphone. Comment et pourquoi a-t-il été inventé? Tout de suite, bienvenue dans la tête des animaux.
Curiosité est un vilain défaut.
Pour savoir ce que c'est qu'un antispéciste, il faut savoir ce que c'est qu'un spéciste. La spéciste, c'est vous, c'est moi, c'est la plupart des gens. C'est les gens qui considèrent que tuer une mouche, un poulet ou un veau, ma foi, c'est pas un crime.
RTL.
Et les antispécistes, ils disent si c'est un crime, si malgré tout vous voulez manger de la viande, mordez donc votre propre cul.
Jusqu'à 22h. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Là, vous avez peut-être entendu parler de ce mouvement, l'antispécisme, qui milite pour que tous les êtres vivants soient traités avec les mêmes égards, humains et animaux, des droits civiques pour les animaux. Bah pourquoi pas? Alors, à la curiosité, on s'est demandé à quel point les animaux nous ressemblent et surtout, à quoi pensent-ils? Bonsoir Thomas Cavaillé-Foll.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu à la curiosité. À notre micro, vous êtes journaliste au magazine Science et Vie qui propose ce dossier, à quoi pensent les bêtes? C'est en partenariat avec RTL. Alors, on va commencer par notre petit chouchou. On peut dire que le chien est l'un des animaux de compagnie préférés des Français. Le chien, on découvre qu'il pense à nous les humains. Pourquoi?
Bon, vous l'avez dit, en fait, le chien, c'est l'animal domestique par excellence. Ça fait 15 000 ans qu'on vit avec lui. Il y a un lien forcément très fort, très affectif qui s'est développé entre nos deux espèces.
Mais ça veut dire que ce lien, il s'est développé au point d'être inscrit dans ses gènes, dans son cerveau?
Dans son cerveau, oui, tout à fait.
Mais ouais. Comment on peut dire qu'il pense à nous?
Bon, déjà, si vous demandez à n'importe quel maître, il vous dira que le chien l'aime. Et le maître l'aime en retour, forcément. Mais surtout, cette espèce, elle est très obéissante. On peut donc lui apprendre à rester silencieuse et immobile et donc lui faire passer un IRM.
C'est ce que les scientifiques ont fait.
C'est ce que les scientifiques ont fait, oui, bien sûr. Il y a deux équipes, principalement, une équipe hongroise et une équipe américaine, qui ont fait passer des IRM à des chiens avec des casques anti-bruit pour pas qu'ils soient dissipés, on va dire.
Ouais.
Et puis après, il suffit de lui montrer, par exemple, des images de maîtres et de personnes inconnues, ou de lui présenter des odeurs de son maître ou de personnes inconnues, et voir comment ça réagit dans son cerveau.
Alors, c'est quoi la réaction de ces chiens qui sont comme ça, coupés des bruits et isolés de tout?
Eh bien, en fait, ça... Par exemple, dès qu'ils sentent leur maître ou qu'ils voient leur maître, ça active chez eux ce qu'on appelle un système de récompense. Quelque chose que normalement, c'est par exemple quand on leur présente de la nourriture. Quelque chose qui les rend heureux.
Donc du plaisir.
Donc du plaisir, exactement. Il y a notamment une zone du cerveau appelée le striatum ventral.
Le striatum ventral,
oui, exactement. Qui augmente en réaction à des émotions positives. Donc ce que je vous disais, la nourriture. Et donc l'odeur du maître l'active fortement. Et par contre, l'odeur d'un inconnu ne l'active pas du tout.
D'accord, mais est-ce que le chien nous reconnaît uniquement grâce à notre odeur?
Non, on sait aussi qu'il nous reconnaît visuellement. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que le chien n'a pas une vision très développée.
Il voit pas beaucoup de couleurs, le chien, c'est ça? Notamment, oui.
Il ne nous voit pas aussi bien que nous, on se voit.
Et il nous reconnaît quand même.
Et il nous reconnaît quand même. Et d'ailleurs, même, vous savez que le chien nous regarde. Et suit notre regard, même quand on regarde quelque chose, il cherche à voir la même chose. C'est très, 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 très rare chez les animaux, ça. Et donc, il possède même un vrai système de reconnaissance faciale qui est adapté aux humains.
C'est-à-dire?
Toujours par IRM, des chercheurs ont découvert où se situait cette zone dans le cerveau. Il y a un truc qui fait qu'il nous reconnaît très facilement des inconnus, en fait.
Bah, il reconnaît notre silhouette, en quelque sorte, c'est ça? Notre profil ou des traits de notre visage?
Des traits de notre visage,
ce qui évite qu'il nous prenne pour un assaillant, quand même agréable.
On est content qu'il nous reconnaisse,
voilà,
notre chien.
Et très rapidement.
Ça veut dire aussi, Thomas Cavaillé-Foll, que le chien a de l'empathie envers l'humain. Vous dites qu'il suit le regard de son maître, il l'accompagne, il a ce genre d'émotion pour nous, qui est une émotion humaine. humaine, l'empathie.
Oui, tout à fait, c'est des véritables éponges, ça, c'est très connu aussi. Ils ne font pas que partager nos émotions. Lorsqu'on est joyeux, effectivement, ils sont joyeux. Mais si on est en colère, par exemple, ils vont au contraire essayer de nous calmer.
Oula, on a dû l'énerver.
Il y en a qui se réveille là, manifestement.
Il s'appelle comment notre chien?
Il s'appelle
Thomas,
André Facetta, je crois que c'est notre réalisateur qui l'a trouvé dans sa console. Donc vous nous l'avez dit, cet attachement du chien à l'homme, elle est très ancienne.
Ouais.
15 000 ans, c'est ça?
15 000 ans, c'est ça, à peu près.
On peut le dater. Donc c'est quoi? C'est une histoire de sélection naturelle qui fait que les hommes ont préféré les chiens qui leur étaient attachés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des chiens qui nous aiment.
On ne sait pas trop ça, hein, mais ça doit être quelque chose comme ça. D'abord, au début, c'était plutôt par nécessité. Les chiens nous permettaient de nous prévenir d'autres prédateurs, j'imagine.
Ah oui, bien sûr,
et eux,
ouais.
On leur donnait à manger, tout simplement. Et donc, au fur et à mesure de 15 000 ans, ça peut paraître court, mais apparemment, ça suffit pour créer un lien très, très fort entre deux espèces.
Hmm. Alors, il y a un autre animal qui est complètement à l'opposé de nos vies quotidiennes, quand même, dont vous parlez dans ce Science et Vie, c'est la pieuvre. Alors déjà, on va commencer par cette anecdote qui est assez formidable. C'est quoi l'ancêtre de la pieuvre?
Ah, c'est une sorte d'escargot.
Ah bon?
Tout petit?
Ouais. Tout petit, il y a 540 millions d'années environ. Et puis par contre, la pieuvre, elle s'est séparée de sa coquille. Elle a opté pour un corps complètement mou et 9 bras.
9 bras, alors des bras qui ne servent pas à rien. C'est pas des bras juste pour attraper? C'est quoi leur utilité à ces bras?
Alors, ces bras, ils sont tout bonnement incroyables. En fait, ils ont leur propre mode de pensée. La pieuvre, elle pense presque à 9 choses à la fois.
9 choses. Pourquoi? Parce qu'elle a 9 tentacules.
Elle a 8 tentacules.
Ah oui, d'accord.
Oui,
donc il y a 8,
cerveau central,
il y a 8 tentacules plus le cerveau central.
Plus le cerveau central, exactement.
Mais attendez, chaque tentacule, elle a une capacité à réfléchir. Et
ça
à...
vous fait rêver, Thomas?
Exactement. Elle peut explorer, chasser, repousser des choses avec ses 8 bras tout en pensant à autre chose. Il y a un chercheur qui nous a dit avec un peu d'humour.
Moi, je sais à quoi pense Sidonie Bonnec, mais bon, c'est pas grave.
À quoi?
Je sais pas.
Oh, ben, il y a le courage de le dire.
Au tentacule. Alors, donc, il y a, pardon, vous interrompu, on est très dissipé ce soir, excusez-nous Thomas Cavalier-Folle. Donc ces 8 tentacules, elles ont un cerveau, chacune a un cerveau, est-ce qu'on peut dire ça?
C'est pas vraiment un cerveau. La pieuvre a vraiment son système nerveux central qui est situé dans ce qu'on appelle la tête, mais c'est plutôt 8 systèmes nerveux périphériques, des chaînes de neurones, quoi. Et qui vont jusqu'à la pointe de chaque tentacule. Et donc chaque bras est complètement autonome et pense tout seul.
Alors un animal qui pense avec ses bras et peut faire plusieurs choses en même temps, ça fait rêver. On continue de vous révéler les secrets de la bête juste après une courte pause. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL, première radio de France.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Les animaux pensent, les petites bêtes, les grosses bêtes, la science reconnaît aujourd'hui que les animaux pensent et éprouvent des émotions. C'est Thomas Cavalier-Folle, journaliste au magazine Science et Vie, qui nous le révèle. C'est un dossier qui a été monté en partenariat avec RTL. Donc on parlait de la pieuvre, Thomas Cavalier-Folle, et donc vous nous avez appris que cette pieuvre, elle a un cerveau central, ses 8 tentacules qui ont pas mal d'autonomie. Ce cerveau central, il est quand même plus puissant que le reste, il sert à quoi?
Il coordonne un peu tout et puis il sert aussi à mémoriser. Surtout pour la mémoire.
Donc les bras ne mémorisent pas, mais le cerveau central, oui, c'est ça?
Ouais, c'est exactement ça.
Et les bras, ils peuvent servir à quoi? Les tentacules peuvent servir à quoi?
Ben, là, ça va être pour donner des informations sur l'environnement. Par exemple, le pH ou la texture d'une chose, ou la température extérieure, ou ce genre de choses.
Il y a
énormément de fibres sensitives qui sont réparties sur leur peau et sur les ventouses.
Et toutes ces informations remontent au cerveau central de la pieuvre.
Que les informations importantes, c'est ça qui est incroyable. C'est que quand il y a une information importante, là, le cerveau central se focus sur cette information. Mais sinon, non, ça agit tout seul.
Alors, question un peu bizarre. Moi, j'imagine la pieuvre comme ça qui nage avec ses 8 tentacules. Comment elle fait pour ne pas emmêler ses bras? Parce que c'est très long quand même,
vrai,
et très
vrai,
long.
Ouais. Ben, y a même une reconnaissance chimique d'elle-même. Ce qui fait qu'elle ne va pas approcher ses bras ni les emmêler.
Oui, comme nous, si on ne veut pas faire de nœuds avec notre bras, on n'en fait pas. Bon, c'est vrai.
Finalement, exactement. Sauf que là, c'est notre cerveau qui s'en occupe.
Oui.
Alors qu'elle, ce sont ses bras.
C'est chaque tentacule qui s'en occupe tout seul. Il y a des ventouses sur chaque tentacule?
Ouais.
Beaucoup?
Oui, effectivement, entre 200 et 300.
Alors, d'accord. C'est
encore
mal,
plus fort dans votre dossier, oui. Thomas Cavalier-Folle, dans Science et Vie. Vous dites que la pieuvre ressemble un peu aux humains. En quoi?
Alors, c'est pas exactement un peu aux humains.
Je me suis emballé.
On va dire que on peut imaginer que nous, quand nous marchons, par exemple, qu'on est un peu fatigué, on fait pas du tout attention à nos jambes. Ce serait un peu pareil, peut-être. Mais
on est sur pilote automatique, vous voulez dire?
Ouais, on est un peu sur un pilote automatique. Mais là, ce serait plus impressionnant encore. Imaginez que, par exemple, vous dessinez d'une main. L'autre maintient un livre que vous lisez pendant que vos pieds font un rythme de batterie ou un truc comme ça, complètement indépendamment.
Ah non, donc on ne ressemble pas du tout à la pieuvre en fait.
Donc en fait non, ça a vraiment une intelligence qu'on peut qualifier presque d'extraterrestre.
Est-ce qu'elle a des émotions, cette pieuvre?
Ça c'est très très difficile comme question, on n'en sait trop rien. En 2012 par contre, on a reconnu une conscience à la pieuvre. Il y a tout un groupe de neuroscientifiques qui a fait une déclaration qui s'appelle la déclaration de Cambridge et qui ont reconnu à la pieuvre une conscience. C'est le seul des mollusques...
Qui aurait une conscience. Conscience d'elle-même, conscience d'être une pieuvre.
Il n'y a pas l'histoire du test du miroir, c'est pas l'un des rares animaux qui a la capacité, je crois me souvenir qu'on avait, on avait raconté ça dans la curiosité, c'est l'un des rares animaux qui a la capacité à se reconnaître dans un miroir.
Effectivement.
Donc c'est effectivement une conscience de soi. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez dit, c'est presque un extraterrestre cet animal, et dans la littérature de science-fiction, dans les films de science-fiction, les extraterrestres sont souvent représentés
par des pieuvres,
ou des tétrapodes. Des heptapodes, etc. Donc c'est assez marrant. Et je peux pas dire dans quel film actuellement il y a ça parce que ça révèle un peu trop le contenu. Mais voilà, il y a souvent des pieuvres très très intelligentes dans la littérature de science-fiction.
Alors si on reste dans l'eau, il y a le poisson rouge. Alors le poisson rouge, il fréquente pas trop la pieuvre. On est un petit peu plus haut. Et c'est aussi un être doué de pensée. Ou alors est-ce que il redécouvre chaque jour qu'il est dans un bocal, comme on le dit souvent, un
la
peu
mémoire,
mesquinement.
La mémoire de poisson rouge. Oui,
exactement. 3 secondes. Enfin, ouais. Ça en fait c'est une grosse idée reçue. Le poisson rouge. Il a une très bonne mémoire généralement. D'ailleurs, il en a besoin dans son environnement pour retrouver de la bouffe et ce genre de choses. Donc en fait, il redécouvre pas son bocal, il sait très bien où il est et puis il fait des tours. Et les tours, par contre, il doit être en mode un peu automatique. Lui, par contre, on peut le.
Comme
on
quand on conduit.
Comme nous conduisons.
J'espère
qu'on est très
que vous
fatigué,
conduisez pas en mode automatique,
Sylvie. Si, c'est ça le problème.
Plutôt
quand on va au boulot et qu'on est fatigué.
Alors donc il est en mode automatique, le poisson rouge ?
Oui, exactement. En fait, il fait ses tours, il sait très bien où il est, donc il fait ses tours jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de stimulation qui se passe dans sa vie. Et cette stimulation, généralement, c'est forcément, il a que nous qui se passe. Donc quand on s'approche, lui, il sait très bien en plus que c'est généralement accompagné d'une sorte d'apparition de nourriture. Donc là, il y a une stimulation qui se passe, il sort de son mode automatique, il mange, et puis après il repart.
Donc, il s'ennuie en fait.
Ça c'est une autre question très compliquée parce que en fait l'ennui, si on y réfléchit, c'est pas le manque de stimulation, c'est plutôt la conscience d'être dans un environnement qui manque de stimulation. Donc quand j'ai posé cette question aux chercheurs, ils étaient tous très embêtés, hein, très franchement. Mais il y en a un qui m'a dit que pour lui, pour donner un exemple, par exemple le poisson rouge, il aurait pas de manque d'appétit sexuel, tout simplement parce qu'il y a pas d'hormones pour lui donner ce manque d'appétit sexuel. Donc en fait c'est un peu le paradoxe du poisson rouge. Et son environnement est tellement ennuyeux qu'il a même pas conscience qu'il s'ennuie. Il sait pas que la mer.
Et il se détend même pas en faisant l'amour, quoi. Il fait voilà.
S'il est tout seul.
Bon, bref, on préfère être pieuvre que.
C'est ça. Dauphin.
Que poisson rouge ou dauphin. Mais oui, moi, pendant très longtemps, je pensais que l'animal le plus intelligent du monde aquatique, du milieu marin, c'était le dauphin. Est-ce que c'est vraiment un animal intelligent?
C'est un animal très intelligent. C'est même après l'homme. L'animal qui est doté du plus fort quotient d'encéphalisation, c'est-à-dire le rapport poids du cerveau sur poids du corps.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait quoi? Traiter des informations, par exemple?
Oui, d'une manière d'ailleurs qui nous échappe complètement. Ce qu'on appelle son sonar, là, son système d'écholocalisation, ne sert pas qu'à voir son environnement. Il peut même nous scruter, ou scruter les autres animaux, par exemple. Avec son sonar, il arrive à, par exemple, sentir notre rythme cardiaque, ou notre respiration, et avec la vitesse, savoir dans quel état émotif on est.
Lui aussi, le dauphin, il est donc doué d'une forme d'empathie?
Effectivement. Ouais. Effectivement, il a même de plusieurs structures du cerveau qui sont très, très spécialisées dans l'empathie. Il y a d'abord ce qu'on appelle les neurones en fuseau, qui sont une sorte de neurones très spécialisés et que l'on retrouve que chez de rares espèces, comme les grands singes, donc l'homme aussi, bien sûr, l'éléphant, et le dauphin.
Et qui permet de faire quoi dans leur quotidien? D'aider les autres, d'avoir de l'attention pour les autres?
Exactement, ouais. De toute façon, c'est des animaux très sociaux, les dauphins. Ils s'aident énormément et ils aident aussi les autres espèces. Ils ont aussi dans leur cortex limbique, un cortex un peu plus développé qu'on appelle le paralimbique, qui est par exemple chez nous très très réduit, alors que chez le dauphin, il est très 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 fort.
Et il sert à quoi?
Et du coup, il sert à traiter des émotions très complexes. On pense même, certains chercheurs pensent, que le dauphin est capable de traiter des émotions avec une complexité qui nous échappe.
C'est fascinant, ce monde des animaux. Et alors, c'est drôle parce qu'il y a toujours des expressions populaires. Par exemple, avoir une mémoire d'éléphant. On connaît l'expression. Les éléphants se souviennent-ils vraiment de tout et eux aussi, à quoi pensent-ils? En tout cas, ils trompent énormément, évidemment. La musique du film nous accompagne. Réponse tout de suite sur RTL.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Dis-moi, Flipper, tu m'as l'air bien énervé ce matin. Bon, il y a des individus qui ont volé un bateau.
La curiosité est un vilain défaut.
Oui, parce qu'il faut savoir qu'en Amérique, les gardes-côtes, ils parlent dauphin. Hein. Dis-moi, Flipper, est-ce que tu as pu relever l'immatriculation du bateau?
Jusqu'à 22h.
3824-42-B12-49-53. Oh là là, dis-moi, Flipper, quelle mémoire!
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Mais il a raison, Patrick Bosso. Les dauphins sont super intelligents. Ils sont aussi doués d'empathie. Figurez-vous que les pieuvres sont intelligentes jusqu'au bout de leurs 8 bras. Que les chiens pensent à nous à chaque seconde de leur vie. Qu'ils nous aiment sincèrement. Que les poissons rouges ne s'ennuient pas dans leur bocal puisqu'ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Voici quelques-unes des informations, ça aide, qu'on a pu apprendre depuis le début de cette émission grâce à notre confrère du magazine Science et Vie qui publie un dossier sur le sujet. C'est en partenariat avec RTL, Thomas Cavaillé-Folle. Ces expériences, ces infos que vous nous donnez sur à quoi pensent les animaux, ce sont des expériences qui les ont révélées. Ça, c'est une nouvelle science, ce sont des nouvelles recherches qui permettent de dire ça et d'apprendre tout ça sur eux.
C'est effectivement pas une nouvelle recherche, mais une nouvelle façon d'aborder les émotions animales. Il y a quelque chose qui a changé vraiment chez les chercheurs, plus que dans les expériences. Il y a bien sûr eu des nouvelles technologies, comme l'IRM dont je vous ai parlé, mais généralement, ce sont plus les chercheurs eux-mêmes qui commencent à reconnaître des émotions chez les animaux.
Et on les fait souffrir, ces animaux, quand on teste, quand on cherche à savoir s'ils ont des émotions, de l'empathie, de la tristesse?
Le moins possible, mais il y a effectivement forcément des expériences un peu invasives, un peu douloureuses. Si on cherche à savoir si le homard peut ressentir le stress, par exemple, ou la douleur, et bien, on est obligé de faire ressentir du stress et de la douleur à un homard.
Et pourtant, vous dites dans votre dossier qu'on modélise maintenant ces animaux et qu'en fait, on peut presque les tester sur ordinateur sans avoir à les toucher.
Effectivement, c'est... En fait, la recherche a complètement changé. Oui, il y a ce qu'on appelle... Tout est fait pour éviter de faire des tests sur les animaux. Donc on a des moyens pour ça, on les fait des tests in vitro, comme on dit, donc pas sur l'animal en lui-même, mais plutôt sur des tissus, et les tests sur ordinateur.
Ce qui est assez logique, puisqu'on parlait du spécisme tout à l'heure en début d'émission, ce mouvement qui consiste à reconnaître des droits et une conscience aux animaux, si pour reconnaître tout ça, il faut les faire souffrir, c'est un peu paradoxal. Quoi.
Mais exactement, les chercheurs m'ont dit eux-mêmes qu'ils étaient dans une position un peu schizophrénique. Quoi. Et pour reconnaître une pensée aux animaux, ils sont obligés de faire des tests sur des animaux. Ouais. Sans compter, bien sûr, la santé humaine, les tests qui sont...
Alors attendez, je vais voir si Thomas a des émotions, je le pince.
Aïe, elle vient de me pincer, c'est insupportable. Je ne sais pas comment je tiens tous les soirs de 20h à 22h sur RTL. Bon, dans ce Science et Vie, il y a plein d'histoires qui sont vraiment passionnantes, Thomas Cavaillé-Folle. Par exemple, Eleanor, c'est la doyenne d'un groupe d'éléphants. Et il lui est arrivé quelque chose de particulier en 2003. Vous pouvez nous le raconter?
Ouais, bien sûr. Eleanor, ça doit être le cas le plus documenté de décès chez un éléphant. En fait, en 2003, donc, ça se passe au Kenya. Elle est blessée. C'est une matriarche, donc c'est elle qui s'occupe de toute sa famille. Elle est blessée et elle s'effondre. Et là, t'as une matriarche d'une autre famille qui vient l'aider, qui essaie de la remettre sur pied, qui la pousse, qui vocalise et qui montre des gros signes de stress. Mais ça, malheureusement, Eleanor meurt le lendemain. Et pendant près d'une semaine, il y a 5 familles différentes d'éléphants qui viennent se recueillir près du corps, qui parfois tentent de la pousser, de la remettre sur pied encore, mais qui des fois restent aussi immobiles, juste là.
Comme un hommage.
Exactement, comme un hommage, comme un vrai deuil. Les cimetières d'éléphants sont une idée reçue, mais la mémoire d'éléphants et le deuil chez l'éléphant est quelque chose de par contre très réel.
Ça veut dire que ces éléphants ont en quelque sorte conscience de la mort?
Ils ont... Oh, c'est une question très difficile à répondre. Après, ça ne fait aucun doute pour les chercheurs que j'ai interrogés. En fait, vous savez, l'éléphant, c'est une espèce qui est incroyable. Hein. Les éléphants d'Afrique, par exemple, ils vivent plus de 70 ans et ils vivent en groupe. Donc, ça demande quand même un contexte social, une force sociale très forte. Ils s'occupent les uns des autres, ils s'occupent des enfants et pas seulement des leurs. Mmh. Et pour ça, forcément, c'est un premier pas vers l'attachement et vers d'être touché par une disparition.
Mais ça veut dire que les chercheurs ont pu étudier les différents stades par lesquels passent les éléphants quand ils sont confrontés à la mort d'un des membres de leur...
De leur famille, maman.
Famille, clan, groupe.
Oui, bien sûr. Enfin, ils les ont observés. L'éléphant est trop gros pour entrer dans un IRM. Impossible. mais en observant son cerveau, post-mortem.
Ouais.
Et en observant leur comportement face au deuil, on peut tirer quelques conclusions. Ouais.
Thomas, tout à l'heure, Thomas Hugues parlait du test du miroir. Eh bien, l'éléphant aussi, il a passé ce test du miroir.
Ouais.
De quelle
aussi
manière
a passé ce test,
Moi, je l'ai encore réussi ce matin. Franchement, j'étais super content de l'avoir réussi, le test du miroir. Oui, je me suis reconnu.
C'est vrai qu'on l'a pas expliqué tout à l'heure, ce test. Il suffit de mettre en fait une tache sur le front d'un éléphant ou d'un humain, par exemple, et de le présenter à un miroir. Et normalement, si on a une conscience de soi, l'éléphant fera un geste vers la tache parce qu'il comprend que cette tache ne fait pas partie de lui.
Il essaie de l'effacer, en quelque sorte.
De la toucher, ou il a un comportement. En tout cas, il se rend compte que c'est lui dans le miroir. Il se rend compte qu'il y a quelque chose sur son être.
Avoir une mémoire d'éléphant, alors, Thomas Cavaillé-Folle, ça veut dire vraiment quelque chose?
Ah, c'est une réalité. Ils ont une mémoire fantastique. Vous savez qu'une matriarche, justement, peut reconnaître 100 cris différents d'éléphants, mais des éléphants qui ne font pas partie de sa famille. Et à des centaines de kilomètres de loin, un truc comme ça. C'est impressionnant.
C'est une mémoire de quoi? De l'odeur?
Et on pense que c'est une mémoire de l'odeur et de l'ouïe, en fait. Effectivement, si on regarde leur cerveau, les cortex les plus développés sont les cortex auditifs et olfactifs.
Les oiseaux sont-ils des têtes de linotte et ont-ils des cervelles de moineaux?
Vous saurez tout, de me regarder en
tout
disant
en
ça,
restant sur RTL, les curieux.
Vous écoutez RTL.
Continue de plonger dans le cerveau des animaux. À quoi pensent-ils? La suite, les réponses dans un instant, les curieux.
Mais c'est tout de suite les réponses avec Thomas Cavaillé-Folle, qui est journaliste au magazine Science et Vie et qui publie un dossier sur ce sujet en partenariat avec RTL. À quoi pensent les bêtes? Les révélations des neurosciences, c'est le titre de ce dossier, de cette série d'articles. On va parler des oiseaux, tiens. À quoi pense un oiseau? Vous pouvez, la science peut répondre à cette question aujourd'hui. Ça
quand
semble
dingue. Quand ils chantent, on peut répondre à cette question.
Quand ils chantent?
Ouais.
Ah oui.
À quoi ça sert, nous, quand on chante? Qu'est-ce qu'on fait?
À se faire du bien, à se faire plaisir, ouais.
Et c'est exactement, c'est la même chose pour les oiseaux. Les oiseaux font du bien quand ils chantent.
Mais ils pensent pas forcément quand ils chantent.
Ben, on pense pas forcément non plus quand on chante.
C'est vrai. Oh, vous êtes dur, Thomas. Non, mais à la question, est-ce que les oiseaux pensent? Vous n'avez pas répondu à cette question?
On n'a pas exactement répondu à cette question, bien sûr.
Ah non, on le sait pas. Vous me direz pas.
On sait qu'ils... Ils pensent juste différemment de nous, en fait.
Ouais.
Tout être est capable d'une sorte de conscience, en tout cas.
Vous essayez de m'embrouiller, là, Thomas.
C'est ce que m'a répondu Christophe Koch.
C'est-à-dire que vous avez interrogé des spécialistes.
Des spécialistes. Là, on se demandait à quoi ils pensaient quand ils chantaient, particulièrement.
Et on n'a pas la réponse.
On n'a pas la réponse. On sait que c'est pour se faire du bien, mais bon.
Mais ça, on le sait comment? Parce que ça, je sais pas, il libère une hormone particulière.
Exactement, il libère des endorphines, en fait, dans leur, que l'on appelle l'hormone du bonheur, dans leur hypothalamus. Et puis, il libère aussi de la dopamine, là, qui est l'hormone du plaisir, dans une aire qu'on appelle l'aire X. C'est quelque chose qu'ils font naturellement quand ils chantent pour une femelle, par exemple. Mais quand ils chantent tout seuls, ils en libèrent un peu moins, mais ils en libèrent quand même.
Alors c'est parce que ce sont des artistes, les oiseaux, qu'on dit qu'ils sont des têtes de linotte, qu'ils ont des cervelles de moineaux? C'est quoi ces expressions? Est-ce qu'il y a une réalité scientifique derrière cette expression?
Il y a aucune réalité scientifique derrière cette expression. Au contraire, leur chant est plutôt même très structuré et ils doivent avoir une mémoire assez impressionnante pour ça.
Alors donc là, on quitte les oiseaux qui, si je vous entends bien, sont des artistes, puisque le chant leur apporte du plaisir et que c'est pour ça que les oiseaux chantent, et pour nous apporter à nous aussi du plaisir d'ailleurs. Les oiseaux sont des artistes. Les abeilles, elles, ce serait plutôt quoi? Des matheuses, si on devait faire la comparaison?
Ouais, des maîtres de la logique. Les abeilles, c'est super impressionnant parce qu'on a l'impression que chaque information qu'elles ont, donc par exemple les formes, les couleurs, d'un chant, elles le classent en fonction de symboles, enfin comme des symboles, et puis après elles le classent en fonction de leur importance. Par exemple, elles sont capables de savoir si entre telle fleur va apporter plus de nectar que les autres.
Mm-hmm.
Elles vont s'en rappeler, le lendemain elles vont revenir, elles sont très efficaces comme ça, et donc elles vont aller principalement vers cette fleur-là. Elles peuvent même la prendre à leurs congénères.
Mais est-ce qu'on sait comment elles voient, les abeilles? Est-ce qu'elles ont la même vue que nous? Ou alors elles voient des formes, et donc c'est pour ça qu'elles déduisent des symboles et qu'elles découpent comme ça ce monde et ces champs de fleurs en symboles?
Exactement comme elles voient, non, mais c'est sûr qu'en tout cas elles distinguent les formes et qu'elles les assimilent en tant que symboles.
Elle a beaucoup de neurones, l'abeille?
Elle n'en a pas beaucoup du tout. Elle en a environ 1 million. Et ce qui est ridicule par rapport à nous, on estime qu'on en a 86 milliards peut-être. Ah oui, donc l'estimation
c'est rien du tout.
Ouais, c'est rien du tout. Et c'est ça qui est super avec l'abeille, c'est que d'un côté, ça nous permet aussi de se rendre compte quel réseau de neurones occupe telle fonction, vu que c'est très spécialisé.
Mais comment les scientifiques arrive à de telles conclusions, parce que finalement dans ce dossier de Science et Vie sur les émotions, les pensées d'une certaine façon, l'intelligence des animaux, vous vous êtes basé sur les dernières découvertes des neurosciences. Comment par exemple sur les abeilles, ils arrivent à ces conclusions pour nous dire l'abeille, elle sait, elle a une grille de lecture, elle voit des symboles et donc ça lui permet de reconnaître la fleur la plus propice à butiner.
Parce que elles ont été testées, en fait. Là, c'est une équipe de Toulouse qui s'occupe de ça.
Ouais.
Par exemple, on met une abeille devant deux symboles. Derrière un symbole, il y a une solution sucrée. Derrière l'autre symbole, il y a un truc vraiment pas très bon pour les abeilles. Et au début, donc, elle se fait avoir une fois, deux fois. Après, elle a complètement intégré le truc. Et puis, elle va toujours vers le symbole qui contient la solution sucrée. Elle est capable de l'apprendre à ses congénères. Et même si on lui donne une information qui est biaisée, par exemple, si ce n'est pas tout à fait le même symbole, oui. Eh bien, elle va hésiter et elle va même préférer ne pas prendre de décision.
Elle est prudente, l'abeille.
Elle est même consciente de son savoir. Je sais que je ne sais pas ou je sais que je sais.
Quelle humilité !
Oui, c'est assez incroyable.
Ça nous servirait, ça, de temps en temps, hein, le soir, entre 20 et 22.
Surtout à vous.
Ça, c'est sympa. Mais ce que je retiens, c'est qu'elle apprend à ses congénères aussi. Ça veut dire que les premières abeilles qui ont été testées, on imagine ça dans un labo à Toulouse, elles se retrouvent avec deux symboles, elles se trompent une fois, deux fois, trois fois, et puis finalement, elles reconnaissent celui. Et ensuite, les autres qui vont être testées, elles ont quoi ? Elles ont dialogué avec l'abeille là.
Tout à fait.
C'est complètement dingue.
Vous savez que la danse des abeilles est quelque chose de très connu. Pendant longtemps, on pensait que c'était une danse de joie.
Ouais.
En fait, non, c'est une sorte de communication très, très complexe qui permet de dire à tel groupe d'abeilles, là-bas, le champ, les grosses fleurs, violettes, par exemple.
Ah oui. Et il faut butiner celle-là.
Il faut butiner là.
Merci beaucoup Thomas Cavaillé-Foll.
Il n'y a pas de quoi.
Ça, c'est que 1% de toutes les infos que vous donnez est absolument passionnante dans ce dossier Science et Vie qui est à découvrir dans les kiosques tout de suite, maintenant. À bientôt au micro de la curiosité.
Vous écoutez RTL.